Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous, Virginie.
Bonne année, bonjour Michel, bonjour à tous.
C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Power et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio. Créé le 4 janvier 2011, le Messager du Cheval vient de fêter sa 5e année d'existence. Donc, qu'est-ce qu'on dit en selle pour de nouvelles chevauchées, Virginie?
Tout à fait.
Alors, dans la grande famille des selles, il en est une qui rassemble beaucoup de qualités. Elle est rustique, solide, demande assez peu d'entretien. Elle est assez facile à construire avec des matériaux peu onéreux et aisés à trouver. À toutes ces qualités, cette selle en ajoute une de plus. C'est vrai qu'elle est très belle, Virginie. Nous avons intitulé cette émission « La selle arabe ».
Alors, cette selle arabe, elle fait rêver. Ceux qui ont pu assister à des fantasias au Maroc et ailleurs ont pu la voir. C'est une selle très ancienne, comme nous allons y revenir. Il faut savoir qu'elle est en soi, elle est un prix, puisque les gagnants du championnat du monde du cheval arabe reçoivent une magnifique selle offerte par le roi du Maroc, qui est le parrain de ce championnat.
Qui est le parrain de ce championnat. Alors, moi, la question que je me pose un petit peu, c'est d'où elle vient, cette selle? Parce que on peut dire qu'elle a quand même joué un rôle important dans l'histoire de l'équitation.
Oui, absolument, Michel, puisque c'est une selle qu'on utilise en termes de monte et d'élevage jusqu'au XVIIe siècle. Et c'est le rôle du Moyen-Orient. Hein. Le rôle du Moyen-Orient dans l'harnachement est extrêmement important. Au XIe siècle, les trois grandes traditions iraniennes, turques et bédouines fusionnent. Et cette tradition atteindra son apogée avec les mamelouks.
Alors justement, on va peut-être dire un petit peu ce que sont les mamelouks. Alors, pour la plupart d'entre eux, ce sont des Slaves qui ont été capturés au cours de Razia par les Varegs, donc en gros des peuples d'origine scandinave, et qui razient un petit peu en Europe orientale et en Russie méridionale afin d'être vendus comme esclaves sur les marchés de Méditerranée orientale, dont Byzance, qui était un petit peu la plaque tournante. À l'origine, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des caucasiens comme les circassiens ou du Caucase du Sud comme les géorgiens. Les musulmans ne mettent pas longtemps à reconnaître leur qualité, ce sont de redoutables soldats, d'une loyauté totale et sont assez massivement intégrés dans les armées où ils deviennent vite indispensables. Autre avantage, leur incorporation dans les armées permet aux musulmans de contourner la loi coranique qui interdit à un musulman de tuer un autre musulman. Donc ça tombe bien. Et à titre d'exemple, du 9e au 13e siècle, la garde militaire des califes abbassides de Bagdad est composée exclusivement de mamelouks. Alors, sait-on vraiment d'où vient cette selle?
Alors, la selle arabe a une origine très controversée. Pour certains chercheurs, elle a été inspirée par celle des dromadaires.
Fameuse râle qu'on appelle.
Voilà, il faut savoir que traditionnellement, les bédouins, avant de monter des chevaux, montaient des dromadaires. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est la selle du cheval qui a inspiré la selle du dromadaire. Il existe peu de témoignages sur le harnachement avant le 9e siècle. De nombreux traités écrits à partir de ce siècle nous apportent néanmoins des renseignements précieux. Il y en a un en particulier qui s'intitule « Le livre de la selle et de la bride », écrit par Ibn Douryad Abou Bakr Mohamed Ibn Al-Hassan Al-Zdi dans la deuxième moitié du 9e siècle et qui est une source unique en renseignements. Alors, l'auteur commence par la description de l'arçon appelé kayab, du nom du bois, et ce bois c'est l'érable, avec lequel était fabriquée la selle à l'origine. L'arçon est composé des arcatures, qu'on appelle en arabe inwan ou garabus, alors par contre, excusez mon accent, qui sont le pommeau et le trousquin. Leur enjambement, adoud, le rembourrage de celui-ci, diba, et les bandes d'afas.
Voilà, alors juste une petite précision pour dire que c'est une selle qui n'est pas à deux massifs, mais à massif unique, c'est-à-dire que, donc c'est fait de planches de bois qui vont du pommeau à l'avant, donc, et au trousquin, la partie arrière d'une selle.
Viennent ensuite les attaches de toutes sortes, qui sont faites en fer, en cuir, ou également des cordelettes qui maintiennent ces parties entre elles. Alors, leurs noms sont Fahd, Akab, Triman.
Et il y en a d'autres.
Et il y en a d'autres.
D'accord.
Ensuite, nous avons les matelassures.
Alors, la matelassure, c'est ce qui, protège le dos du cheval.
Voilà,
c'est tout à fait. C'est sous la selle, en contact avec le dos du cheval.
Et ces matelassures s'appellent jidiya. Puis, il y a le tapis de selle, metara, le poitrail, labab, et la croupière, tafar, la sangle, izam, ainsi que les nœuds, boucles, fixations et attaches se rapportant à chacun de ces éléments. Enfin, les feutres, coussinets et autres protections sous selle. Donc, tu peux voir, Michel, que c'est une scène assez complexe.
Ah, tout à fait. Oui. C'est absolument, oui. Et c'est amusant parce qu'on a des selles mongoles ou même chinoises qui sont beaucoup plus simples que cela, en fait.
Alors, l'auteur énumère ensuite, en les expliquant, les divers états de la selle, dont le nom change selon que celle-ci est placée trop en arrière vers la croupe ou trop près du garrot. Selon qu'elle est équilibrée, oscillante, béante, insistante ou blessante. Tout ça sont des termes très techniques, mais qui définissent la selle.
Donc on voit qu'effectivement, et c'est peut-être ça aussi qui nous donne l'idée que c'est quand même quelque chose de très très fondamental pour les gens qui l'utilisaient, cette façon de nommer les différentes parties.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que plusieurs styles de selles ont coexisté. La selle mongole, là, dont tu viens de parler, à laquelle nous avons déjà consacré une émission, la selle turque, la selle bédouine, persane et berbère. À savoir que dans l'équitation bédouine, la selle est souvent réduite à un tapis plus ou moins rembourré, doté parfois d'un arçon élémentaire, qui n'est qu'un simple croisillon de bois. Il y a rarement des étriers, les bédouins n'utilisant ni mors, ni cravache, ni éperon, mais un simple licol avec une chaînette pour la muserolle et une longe en guise de reine. Ça avait aussi un point de vue technique de la guerre, parce que comme ça, on ne pouvait pas arracher au niveau de l'harnachement la bride du cheval.
Ah oui, d'accord. Et alors, cette selle, que j'oserais dire révolutionnaire, a-t-elle modifié en profondeur la façon de monter à cheval ?
Oui, elle va complètement influencer nos futures équitations. Car on va voir apparaître, avec la selle mamelouk que j'ai évoquée tout à l'heure, les étriers. Et ça, c'est une invention arabe. Et donc, c'est la selle mamelouk avec étrier triangulaire à plancher, grand, très très différent
de ce que... Tu peux préciser ce que c'est que le plancher d'un étrier ?
Eh bien, sur un étrier, j'allais dire classique que vous connaissez toutes, le plancher, c'est une barre horizontale, un petit peu épaisse. Alors que ici, dans la selle mamelouk, on peut y glisser carrément le pied. Alors, avant de venir vous expliquer un petit peu quelle est cette selle mamelouk, nous allons écouter l'Arbi Akrim à l'oud et Al-Arabi Sereghini au chant, qui interprète un air composé à l'époque du royaume d'Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane, du 8e au 15e siècle, période d'une grande richesse culturelle. Et je rappelle que l'oud est un luth à manche court, très ancien, instrument arabe, qui apparaît dès moins 1800 avant notre ère.
Et donc, c'est bien le oud qui a donné le nom de luth.
آهين على ساعتي جدى الزمان بها فعوضت كل ما أفنيت من عمري من عمري
Donc tu viens de nous l'apprendre, Virginie, ou de nous le réapprendre, met en lumière le reflet de l'évolution de l'équitation de guerre, des armes utilisées par les cavaliers et leurs chevaux.
Oui, donc tout ça lié à l'étrier, puisque, et pas uniquement à l'étrier, puisque cette selle possède également un haut trousquin vertical, donc le trousquin c'est la partie relevée derrière la selle, et à partir du 19e siècle, la selle mamelouke va devenir le prototype de la selle qu'on appelle aujourd'hui arabe. Elle est en effet le reflet de l'évolution de guerre, des armes utilisées par les cavaliers et leurs chevaux, les Perses montant des étalons, les Turcs des hongres et les Arabes, des juments. Notamment, on sait bien qu'un étalon est plus réactif, donc va faire plus, va hennir en sentant des chevaux approcher, alors qu'une jument va rester silencieuse. Ce qui explique le choix qu'ont fait les Arabes en termes de guerre d'utiliser des juments.
Et on le voit bien puisque le prophète était entouré de juments.
Alors, entre le 14e et 15e siècle, on observe un net raccourcissement des étrivières et le passage d'une monte en position assise, les jambes en avant, à une monte en suspension, la jambe fléchie, le talon relevé vers l'arrière. Le pied étant chaussé à fond dans l'étrier et le buste légèrement penché en avant.
Ce qui est quand même déjà relativement un peu moderne.
C'est déjà très moderne. Parce que, alors c'est vrai que la monte ancienne, on le voit sur notamment des estampes, des fresques, même nos chevaliers montaient avec les jambes très très en avant.
Oui, alors là aussi pour, pouvoir résister à l'impact de la lance ennemie ou la percussion, où il fallait vraiment...
Ce type de monte, ce type d'équitation arabe, où la recherche la vitesse est mise en valeur et aussi l'utilisation donc des armes comme l'arquebuse et autres entraîne un changement dans la manière de monter.
Oui, c'est ça. Donc l'utilisation des armes aussi a impacté la façon de...
J'ai dit l'arquebuse, mais je voulais dire l'arbalète.
Oui,
l'arbalète. Et tout ça, ça a impacté la manière de monter. Parce que l'arbalète, il est nécessaire, quand on tire à l'arbalète, de modérer les secousses qui sont infligées par l'allure du cheval, par le trot ou le galop, et de dominer la tête de la monture.
Ah, tout à fait.
Il ne faut pas pouvoir tirer dans la tête de sa monture.
Ah oui, absolument. Et puis l'arbalète, on l'épaule comme un fusil, donc si ça bouge, effectivement, on tue son cheval, on tue son meilleur copain, enfin bon, ça peut être assez dangereux.
Donc on voit bien comment l'utilisation de cette arme a modifié la manière de monter à cheval. Alors, il faut savoir que les Arabes entretenaient avec un soin méticuleux leurs harnachements, dont ils tiraient une grande fierté.
Encore maintenant.
Toujours maintenant, tout à fait. Aussi ornaient-ils leurs selles et leurs brides d'appliques en argent ou en métal, de forme ronde, carrée ou rectangulaire. Le matériau et la couleur du tapis de selle étaient très soignés. On a du velours, on a de la soie, entre autres. Mais ce qui est assez amusant, c'est que Ibn Duryad indique toutefois que le rouge n'est pas recommandé, parce qu'il est synonyme d'arrogance et de manque de modestie.
Ce qui est quelque chose qui a bien évolué. Puisqu'en particulier au Maroc, sur les selles, on a le rouge, on a le vert et on a le bleu, qui sont les trois couleurs dominantes. Et puis ensuite, cela va avec l'imagination de l'artisan qui l'a fait.
En abordant les étriers, Ibn Duryad confirme que c'est le général arabe Al-Mulab Ibn Abi Soufra qui adopta les étriers de fer vers 629, à la place des étriers de bois qui étaient utilisés par les Arabes et non-Arabes avant l'islam.
Alors justement, peut-on parler d'une équitation avant et après l'arrivée de l'étrier? Je pense que c'est très important cette histoire d'étrier.
Mais oui, parce qu'on a bien vu que l'étrier permet d'avoir une position vers l'avant, en suspension souple, hein, terme que connaissent tous les cavaliers, et alors que ce n'était pas le cas avant l'apparition de l'étrier, bien évidemment.
Alors, est-ce qu'on a trouvé des étriers anciens, en fait ?
Alors, oui, hein, il y a des étriers anciens. Ils sont... Alors, justement, le problème, c'est que ceux qui étaient en bois ont disparu. Hein. Tout ça est lié à la conservation et à la manière dont les matériaux ont vieilli.
C'est ça, ces gens, comment dirais-je, ne faisaient pas des dépôts propriétaires ou je ne sais quoi. Enfin, ne les enfouissaient pas, quoi.
C'est-à-dire...
Ou très peu.
On sait que, par exemple, donc les étriers vraiment anciens des premiers siècles de l'islam, donc on les connaît pas parce qu'il n'y avait pas d'enfouissement, hein, donc il n'y avait pas de sépulture dans ce type-là. Donc ceux qui ont été fabriqués en cuir, bois, fer et acier ou argent n'ont pas survécu car ces matériaux-là ont été réutilisés.
D'accord.
Ce sont les manuscrits et les fresques qui nous renseignent à leur sujet. Des fresques en Syrie, à proximité de Palmyre ou des sites de fouilles près de Samarcande en Ouzbékistan, attestent de leur utilisation. Les premiers étriers donc ayant été retrouvés sont en bois recouverts de pièces métalliques, bois et fer. Et c'est à partir du XIIe siècle que l'on trouve des exemples d'étriers islamiques aux formes circulaires, en forme d'arc avec un plancher plat ou légèrement incurvé. Les branches sont plates afin d'intégrer des décorations. Donc les branches, c'est la partie de l'étrier qui est sur le côté.
Absolument, oui.
Ces étriers proviennent essentiellement de Perse et d'Asie centrale et d'Irak et de Syrie, mais pas des pays arabes. Il est donc très difficile de suivre l'évolution de ce type d'étrier dans l'histoire, car des pans entiers nous en sont inconnus. Les matériaux et formes reflètent l'identité culturelle, sociale et économique des cavaliers. Que ce soit un sultan ottoman paradant sur son étalon avec des étriers d'apparat en or, sertis de pierres précieuses, ou un cavalier afghan sur sa mule, n'utilisant que de simples boucles en corde.
Voilà, donc on a toute la gamme. Lors de la conquête de l'Afrique du Nord par la France dans la première moitié du XIXe siècle, les généraux français s'aperçoivent vite que ni les chevaux venus des dépôts de métropole, ni leur harnachement ne sont adaptés au climat et aux conditions de terrain de ces territoires. Tout doit être repensé, les selles en particulier. C'est ainsi qu'un nouveau type de selle mieux adapté sera mis au point, prendra le nom de selle à la spahi, conçue en prenant pour modèle la version, on dirait, nord-africaine de la selle arabe. Après la copie spahi, venant à l'original, donc la selle des cavaliers du Nord. Cette selle se caractérise par un arçon à deux bandes droites à la matière des selles hongroises, deux bandes qui sont solidarisées à l'avant par un pommeau élevé, el carbus, moi aussi je pardonne mon accent, et à l'arrière par un trousquin nettement plus haut que le pommeau qui est taillé par deux contreforts verticaux. Tu nous l'as parfaitement expliqué il y a quelques minutes. Cet arçon, souvent en bois d'olivier, dépourvu de ferrure, à la différence des selles faites en France, pour garantir sa solidité. Il est enveloppé dessus et dessous dans une large pièce de cuir vert, c'est-à-dire un cuir qui n'a pas été au préalable tanné et que le sellier travaille mouillé. En séchant, le cuir se rétracte fortement et solidarise les différentes pièces de bois. C'est simple, efficace et cette technique permet de réduire sensiblement le poids de la selle aussi, ce qui est important. Une fois bien sec, le sellier fixe une sangle de cuir épais munie à chacune de ses extrémités d'un anneau disposé perpendiculairement à l'arçon et sur laquelle seront fixées les étrivières. Sur d'autres modèles, ce sont cette fois deux sangles souvent en tresse de cuir qui sont directement fixées sur l'arçon, un peu à la manière des selles américaines ou mexicaines. Alors tu l'as dit, le siège de la selle arabe est assez étroit, ce qui permet donc aux cuisses du cavalier de se tenir correctement. Tu l'as dit aussi, le ventre appuyé sur le pommeau, etc. Et pour résister, alors ces selles, d'une part, quand elles sont de prix, tu nous en as décrit quelques-unes, le siège est recouvert d'une chemise de cuir de chèvre tannée à l'urine humaine, le fil à lit, un cuir très souple et finement brodé par une corporation d'artistes spécialisés. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais gamin, les gens mettaient leur peau à pipi devant leur porte et puis il y avait des employés qui étaient voilà et qui allaient mettre ça dans les tanneries. Alors pour monter debout, le cavalier a besoin d'étriers adaptés. Ces étriers, El Khab, ont des branches plutôt longues par rapport aux étriers européens. Donc c'est 17 cm de moyenne. Ces branches sont soudées une longue femelle métallique d'environ 15 cm de long sur 12 cm de large et de forme légèrement convexe. Cela permet au cavalier de lui offrir un point d'appui solide qui facilite ses mouvements et renforce son équilibre. Alors traditionnellement, ces étriers sont décorés de petits clous de cuivre pour les plus simples ou d'incrustations de métaux précieux pour les modèles d'apparat. Sous la selle, le dos du cheval est protégé par un tapis épais constitué de plusieurs couches de feutre, el tarar. Ce tapis est muni d'un sanglon fixé sur le pommeau qui permet de le tenir en place, l'empêcher de glisser. La bride, el jam, est composée d'une étire prolongée par deux montants parallèles. Elle est équipée d'oreillères carrées, souvent richement brodées, parfois ornées de perles de verre. Et ces oreillères sont réglables et donc on peut les passer d'un cheval à l'autre, donc ce qui est assez pratique. Le mors enfin, les branches sont coudées en forme de G majuscule, donc il est équipé de deux anneaux qui tournent librement sur eux-mêmes et sont attachés à deux petites chaînes d'une trentaine de centimètres de long. Ces chaînes sont prolongées par des rênes, cette fois en cuir, et permettent à l'animal de boire sans mouiller le cuir. Alors le mors donc est à gourmette, et à la différence de nos mors européens, cette gourmette a la forme d'un large anneau de fer qui entoure la mâchoire inférieure du cheval. Et évidemment, on l'imagine, la puissance de ce mors est absolument énorme. Donc, il faut avoir la main légère. Longtemps menant une vie semi-nomade, cheminant souvent seul, le cavalier d'Afrique du Nord, devenu sédentaire, a conservé dans son harnachement les indices d'une vie désormais révolue. Il a conservé son bissac en grosse toile, El Gueda, accroché à l'arrière de sa selle et dans laquelle, naguère, il transportait son paquetage. On voit parfois, pendu au pommeau, une musette mangeoire faite de cuir épais dans lequel était stockée une ration d'orge et une provision d'eau destinée à son cheval. C'est également une petite sacoche toujours arrivée mais à l'arrière-gauche du trousquin, qui contenait autrefois un jeu de quatre fers et les broches, c'est-à-dire les clous, pour refixer les fers. Nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez retrouver ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Les messagers du cheval. Merci à toi Virginie, merci à toutes et à tous qui nous écoutent patiemment et surtout un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.